Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 21 mai, Chérubin Dorcil à Washington, en compagnie de Morgane Guériec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, affrontement à Kidal, dans le Nord Mali. Les groupes armés disent avoir pris le contrôle de la ville.
On a mis en déroute l'armée malienne. Ce qui n'est pas mort a été fait prisonnier. Ce qui n'a pas été fait prisonnier s'est rendu à l'aménagement après être désarmé.
150 morts en deux jours au Nigeria. Le gouvernement de Goodluck Jonathan est-il dépassé par les événements? En République centrafricaine, le gouvernement propose l'ouverture d'un dialogue direct avec les groupes armés et leurs dirigeants.
C'est un plan concret dont nous attendons beaucoup de la communauté internationale.
Moscou met en doute la légitimité de l'élection présidentielle du 25 mai en Ukraine, sans oublier les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
À Kidal, dans le nord du Mali, l'armée malienne et les groupes rebelles se sont violemment affrontés toute la journée. L'offensive a été lancée par les forces maliennes, mais dans la soirée, la ville est aux mains des groupes armés. Jusqu'en début d'après-midi, notre correspondant à Kidal, Assika Dey Ag Warzagan, se trouvait au milieu des combats.
Au moment où je parle, moi je suis au cœur du combat. Vous entendez sûrement le bruit des armes. Depuis deux heures de temps, le combat est entamé dans les rues de la ville de Kidal, entre les MNLA et l'armée malienne. Ça a commencé exactement à environ de 9h-9h05. Ce que je peux dire, je ne sais pas de quel côté est parti le premier coup de feu, mais le dispositif de positionnement de l'armée était avancé au point qu'il n'est pas exclu que le coup de feu vient de leur côté. Mais cela, je dis bien, au conditionnel, parce qu'en tout cas, c'est un premier coup de feu. C'est la goutte qui a débordé le vase, mais je ne sais de quel côté elle est arrivée. Mais de toute façon, on n'attendait pas à savoir d'où c'est venu. Alors, c'est l'utilisation des armes lourdes, des roquettes. Nous sommes dans cette situation. Les combats sont concentrés essentiellement dans le quartier centre-ville où je suis présentement, où je vous parle. Une partie de la zone occupée par les MNLA et de l'autre côté, du côté Angamali où stationnent les forces de l'armée malienne. Disons, le combat, les tirs viennent de tous les côtés de ce quartier-là.
Assika Dey Ag Warzagan, notre correspondant à Kidal.
150 morts en 48 heures au Nigeria, c'est le bilan des récentes attaques attribuées à Boko Haram dans le nord-est du pays. Le gouvernement nigérian semble dépassé par la violence. Issa Napan.
L'assaut hier des villages de Chawa et Alargano par des individus non identifiés dans le nord-est du pays a fait 30 morts. Ces deux villages sont situés près de Chibok, la localité où des centaines de lycéens ont été enlevés le mois dernier. À Jos, dans l'état du Plateau, le dernier bilan du double attentat est d'au moins 118 morts et une cinquantaine de blessés. L'attaque a eu lieu dans un marché bondé. L'archevêque de Jos, Mgr Ignatius Ayao Kegama, a déploré l'incapacité des forces de sécurité à arrêter les responsables de ces violences. Il a critiqué Boko Haram de vouloir créer le chaos et déstabiliser le pays.
En République centrafricaine, la ministre de la Communication et la Réconciliation nationale, Antoinette Montaigne, a présenté aujourd'hui un plan qui s'articule sur quatre axes, dont l'ouverture d'un dialogue direct avec les groupes armés et leurs dirigeants. Le point avec Idriss Fall.
Le premier axe repose sur la dissémination urgente de messages politiques sur les questions sécuritaires, d'impunité, de paix et réconciliation. La poursuite et l'intensification du dialogue direct avec les groupes armés, la transformation des dynamiques intergroupes et engager immédiatement des discussions avec les populations déplacées à l'intérieur du pays et celles réfugiées à l'étranger. La ministre de la Réconciliation nationale, Antoinette Montaigne-Moussa.
C'est un plan concret dont nous attendons beaucoup de la communauté internationale puisque, comme vous le savez, les ressources de l'État sont très, très, très restreintes. C'est la communauté internationale avec les différents appuis qui vont nous permettre d'aller vite dans la mise en œuvre de ce plan pour que la paix revienne, pour que les tensions qui ont monté d'un cran les trois dernières semaines puissent baisser et pour qu'on aborde le dialogue pour vivre ensemble davantage.
Par ailleurs, à Bangui, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a mis en place hier le Haut Conseil de la communication qui comprend 9 membres, dont 4 femmes.
Tension entre les deux Congos. Les ressortissants du Congo-Brazzaville doivent désormais être munis d'un passeport et d'un visa pour entrer en République démocratique du Congo. C'est ce qu'annonce Kinshasa. Cité par l'agence France Presse, le ministre de l'Intérieur de la RDC, Richard Mouyej, a expliqué que cette mesure visait à rendre l'appareil au Congo-Brazzaville. La RDC accuse en effet son voisin d'avoir changé les conditions de voyage de ses ressortissants souhaitant se rendre à Brazza.
Présidentielle en Guinée-Bissau, le candidat indépendant Nuno Gomes Mabiam conteste les résultats publiés hier par la commission électorale. Selon ses données provisoires, José Mario Vaz, candidat du principal parti du pays, a remporté le second tour avec 61,90% des voix. Nuno Gomes Mabiam a obtenu 38,10% des suffrages. Les deux candidats ont 48 heures pour faire des réclamations à la Cour suprême qui proclamera les résultats définitifs.
En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak a été condamné à 3 ans de prison. L'ancien raïs est accusé de détournement de fonds publics. C'est le fils écope de 4 ans de prison pour le même délit, Jean-Roger Bian.
Les trois Moubarak ont été reconnus coupables de détournement de plusieurs millions de dollars de fonds publics qui ont été utilisés pour la rénovation de résidences privées et familiales. Ils ont également été condamnés à payer une amende de 3 millions de dollars et devront rembourser à l'État près de 18 millions. Ce procès est l'une des affaires retenues contre Hosni Moubarak qui a été renversé par un soulèvement populaire contre son régime en 2011. L'ancien chef de l'État a été condamné à la prison à vie en 2012 pour complicité dans les meurtres de centaines de manifestants pendant la révolte populaire, mais a été libéré 1 an plus tard et assigné à résidence dans un hôpital militaire dans la perspective d'un nouveau procès. Des élections démocratiques ont eu lieu entre-temps, mais l'armée a renversé le président élu, Mohamed Morsi. La justice égyptienne a interdit aux membres du parti de Moubarak de prendre part aux élections à venir. Le nouvel homme fort de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, est largement favori pour remporter les élections présidentielles qui auront lieu la semaine prochaine.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a été reconduit à la tête de l'État. Les députés l'ont désigné pour un second mandat de 5 ans, suite à la victoire de son parti aux élections législatives du 7 mai.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe a exprimé ses doutes sur la légitimité de l'élection présidentielle de dimanche en Ukraine. Michel Joseph.
Dans un point de presse à Shanghai, au dernier jour de sa visite en Chine, Vladimir Poutine a déclaré qu'il sera difficile d'établir des relations avec des gens qui accèdent au pouvoir dans le contexte de l'opération punitive qui continue dans le sud-est de l'Ukraine contre les séparatistes pro-russes. Il a également critiqué la détention de journalistes travaillant dans la région pour les médias russes. Les autorités ukrainiennes soutiennent que 2 journalistes du site Life News avaient des missiles antiaériens portatifs au moment de leur arrestation le 18 mai dernier. Moscou rejette cette accusation comme étant absolument ridicule. Le président Vladimir Poutine dit que l'Ukraine deviendrait plus stable en organisant un référendum sur une nouvelle constitution avant un scrutin présidentiel. Il affirme cependant que la Russie a entamé le retrait de ses troupes massées près de la frontière pour faciliter la tenue du vote. Plus tôt ce mercredi, le vice-président américain Joe Biden a prévenu que les États-Unis pourraient imposer des sanctions plus sévères à la Russie si elle perturbait la présidentielle de dimanche en Ukraine.
Après des dizaines d'années de négociations, la Chine et la Russie ont signé un contrat gazier de 400 milliards de dollars. En vertu de cet accord qui s'étend sur 30 ans, la Russie livrera donc du gaz de Sibérie à la Chine après construction d'un pipeline. Cela pourrait devenir réalité d'ici 4 ans.
L'armée pakistanaise annonce la mort d'au moins 60 militants lors de frappes aériennes conduites dans la région tribale du nord-ouest du Pakistan. Des armes et munitions ont été également détruites, apprend-on de même source. La zone est fermée aux journalistes, donc difficile de confirmer ce bilan.
Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a été invité à la cérémonie de prestation de serment du nouveau premier ministre indien Narendra Modi lundi prochain. Selon un porte-parole du parti Bharatiya Janata, tous les chefs du gouvernement de l'Association sud-asiatique de coopération régionale, composée de 8 pays, ont reçu l'invitation. New Delhi attend la réponse du dirigeant pakistanais.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama s'est prononcé aujourd'hui sur les allégations de mauvais traitement dans les hôpitaux militaires du pays.
If these allegations prove to be true, it is dishonorable. It is disgraceful.
Si ces allégations s'avèrent exactes, c'est déshonorant, honteux et je ne vais pas les tolérer, Un point, c'est tout. Des membres du Congrès réclament le départ du secrétaire aux affaires des anciens combattants, Eric Shinseki. La raison évoquée, 40 anciens soldats auraient trouvé la mort en attente de soins dans un hôpital militaire de l'Arizona. Le président a exprimé son soutien pour le général Shinseki, tout en avertissant qu'il serait tenu responsable. Voilà pour le journal. Il est 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington, chez Robin Dorsil en compagnie de Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Retour sur les affrontements dans le nord du Mali après de violents combats ce matin à Kidal. Les rebelles Touareg disent avoir mis en déroute l'armée malienne.
Aucun bilan précis pour le moment, mais pour sûr, il y a eu des morts et des blessés. Idriss Fall a joint sur place Mohamed Assalé, membre du bureau exécutif du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad.
À Kidal, il y avait l'incident du 17 du Mali contre le MNLA. On a fait un communiqué pour nous démarquer d'abord en tant que HCIA. Finalement, le premier ministre, dans sa déclaration de guerre, nous a mis dedans. Et aujourd'hui, vers 10h, le Mali nous a attaqués. Finalement, tout le monde est rentré dans la guerre. Et Dieu merci, nous contrôlons toute la ville de Kidal maintenant.
Ça veut dire que vous avez mis en déroute l'armée malienne?
On a mis en déroute l'armée malienne. Ce qui n'est pas mort a été fait prisonnier. Ce qui n'a pas été fait prisonnier s'est rendu à l'amnistie après être désarmé.
Les combats ont duré combien de temps?
Les combats ont duré 9 heures. Les combats ont commencé à 10 heures pour ne terminer qu'à 15h30.
Est-ce qu'on a une idée du bilan? Combien de personnes ont été tuées?
En tout cas, à mon niveau, à ce jour, on a 10 prisonniers, mais les gens n'ont pas fini de ratisser les recoins, tout ça, pour voir au total, pour voir combien de prisonniers on a. Du côté du MNLA aussi, ils ont des prisonniers. Et il y a une trentaine de morts, 37 morts comptés.
Est-ce que le MNLA occupe toujours la gouvernance?
Le MNLA occupe le gouvernorat, le HCIA occupe le camp de garde, le MNLA et le HCIA contrôlent le camp militaire. Toute la ville est occupée par le MNLA et le HCIA. Minusma et Serval se sont repliés dans leur camp. Le MNLA et le HCIA à Kidal maintenant.
Et les renforts de soldats maliens qui étaient venus à Kidal, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les 1500 soldats?
Les 1500 soldats, vraiment, nous, on les a entendus, comme vous, nous ne savons pas ce que c'est devenu. En tout cas, nous, ceux qui n'ont pas mort ou fait prisonnier se sont rendus au camp de l'aménagement. Ils ont été désarmés là-bas et protégés comme des réfugiés. Il y a une partie qui s'est retirée, qui a repris le chemin de Gao. En tout cas, aucun soldat malien à Kidal maintenant qui n'est pas prisonnier. Il n'y a pas un soldat malien à Kidal.
Qu'est-ce que vous revendiquez donc?
Non, on ne revendique rien. Nous, on a été attaqués, on a riposté en légitime défense. On ne revendique rien. On s'inscrit dans le cadre de l'accord de Ouagadougou. On est sur un terrain de négociation et de dialogue. Parce que ce matin, on nous attaque. Et qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est une légitime défense? On a défendu. Et bien, merci, l'armée qui nous a attaqués est mise en déroute. Sinon, le Mali a cherché sa guerre. Ibeka a cherché sa guerre. Là, malheureusement, il l'a mal géré.
Mohamed Assalé, membre du bureau exécutif du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Nigeria, les opérations de secours se sont poursuivies à Jos au lendemain d'un double attentat ayant fait au moins 118 morts et plus de 50 blessés. Les autorités soupçonnent Boko Haram d'avoir perpétré l'attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Le gouvernement américain a condamné les dernières violences qui ont fait 150 morts en 48 heures. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint à Toulouse, en France, l'expert en terrorisme islamiste Mathieu Guider.
Le problème aujourd'hui, c'est que nous nous trouvons au Nigeria dans une situation préélectorale et cette situation de compétition politique à la fois à l'intérieur du gouvernement fédéral et à l'intérieur de chaque État fait qu'il est très difficile aujourd'hui de s'entendre sur une stratégie qui conduise à une éradication du groupe Boko Haram. On est dans une situation où c'est le groupe plutôt qui bénéficie de cette visibilité.
Est-ce que ces soutiens qui ont été proposés là par divers pays ne sont pas finalement une manière de faire un petit peu en rang dispersé? Parce que, bon, il faudra un certain temps pour mettre tout cela en place.
Indéniablement, il y avait d'abord la réticence. Maintenant, tout dépendra au cours des prochaines semaines et des prochains mois de la capacité de travailler ensemble des différents services et des différents barons généraux à l'intérieur du Nigeria et de la capacité et de la volonté de collaborer, de travailler ensemble du Nigeria avec ses voisins immédiats. Tout cela dépend d'enjeux politiques et diplomatiques dont les résultats sont tout à fait incertains pour un groupe dont les actions sont essentiellement locales pour l'instant.
Certains observateurs remarquent finalement qu'il s'agit d'une certaine manière d'une crise humanitaire, notamment dans le Nord-Est, et que logiquement la communauté internationale dans son ensemble devrait intervenir. Mais cependant, est-ce que ces déclarations faites par plusieurs pays qui ont décidé plus ou moins de travailler ensemble, est-ce que ce n'est pas finalement un signal envoyé à Boko Haram ?
Je partage parfaitement l'analyse. Après la Syrie, c'est le plus grand déplacement de population. Et aujourd'hui, on ne voit pas réellement les organisations humanitaires agir de façon active sur ce terrain-là. Il faut, en plus des efforts sécuritaires, immédiatement enclencher un plan d'aide pour les populations civiles qui souffrent. Bien évidemment, aujourd'hui, cette action de visibilité à l'échelle internationale permet d'attirer l'attention sur la situation dramatique du Nigeria et en particulier des jeunes femmes.
Le professeur Mathieu Guidère, islamologue, est notamment l'auteur de l'ouvrage « Al-Qaïda, mode d'emploi ». Et suite à l'attentat à Jos, la psychose s'est installée dans cette ville nigériane. Les personnes contactées par la Voix de l'Amérique ont préféré ne pas témoigner.
Les ONG travaillant dans le Sahel burkinabé avec à leur tête Oxfam ont lancé un appel d'urgence au gouvernement, à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds pour une aide en faveur des populations autochtones et des réfugiés maliens vivant dans cette région. Il y a en effet de gros risques de crise alimentaire et de conflits entre les populations hôtes et les réfugiés maliens. Reportage Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Pour mieux mesurer l'intensité de la situation, suivons les détails du plan annuel de réponse à l'insécurité alimentaire fait par Tenga Ramdé, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire du Burkina.
On prévoit qu'il y a plus de 300 000 personnes et parmi ces 300 000 personnes, plus de la moitié se retrouvent dans les trois provinces du Sahel qui seront en crise pendant la période de sud-ouest, c'est-à-dire à partir de juillet-août, si rien n'est fait, s'il n'y a aucun accompagnement. Vous voyez donc la nécessité d'agir dès maintenant sur ces populations-là pour justement préserver leurs moyens de subsistance.
Quel peut donc être le pire? On écoute les explications de Oscar Koalga. Il est le représentant de Oxfam au Burkina.
Les populations du Sahel ont accueilli, bien sûr, des réfugiés, donc des hôtes. Et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par la communauté internationale et le gouvernement burkinabé. On a amélioré sensiblement le niveau de vie de ces réfugiés. Et vous imaginez que quand un réfugié a une vie très améliorée en un bon point face à une personne locale qui, lui, n'a pas reçu d'aide et qui se trouve dans une situation de malnutrition avec les enfants, qui se trouve en train d'avoir sa terre à partager avec les autres, vous comprenez qu'à quelque part, il va falloir prévenir. Parce qu'à un moment donné, il y a la peur que la personne qui accueille dise « c'est suffi, comme ça, laissez-moi, moi j'ai besoin aussi d'être en un bon point comme le réfugié qui vient d'arriver ». Voilà un peu le message que nous voulons faire passer aux bailleurs de fonds et au gouvernement pour voir dans quelle mesure on peut aussi s'intéresser à cette situation locale qui est là.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur une maladie qui touche de nombreuses femmes en Afrique. La fistule obstétricale, une lésion liée à l'accouchement. Celles qui en souffrent sont également victimes d'exclusion sociale, d'où la journée internationale pour l'éliminer. Avec nous sur le plateau, Khalil Gueye fera le tour de la question ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Les États-Unis, qui ont inculpé 5 militaires chinois pour espionnage, estiment que c'est à Pékin de déterminer l'impact de cette affaire sur les relations sino-américaines. Camille Gros-Didier.
La question du cyberespionnage revient régulièrement sur le tapis dans les entretiens entre les États-Unis et la Chine. Le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, l'avait soulevé lors de sa dernière visite à Beijing en avril, selon l'amiral John Kirby, porte-parole du Pentagone.
We still desire, from a military perspective, to further grow and develop the military-to-military relationship.
Nous désirons toujours, d'un point de vue militaire, élargir notre coopération et trouver des façons d'avoir une conversation plus productive sur ces questions très difficiles, notamment l'informatique. Les Chinois ont annoncé qu'ils se sont retirés du groupe de travail informatique. C'est regrettable. Il a ajouté que Washington ne souhaite nullement militariser le cyberespace, mais veut poursuivre des échanges aussi francs et transparents que possible. La justice américaine a inculpé lundi 5 officiers de l'armée chinoise pour piratage informatique et espionnage économique à l'encontre de plusieurs grandes sociétés américaines dans les secteurs de l'acier, des énergies solaires et nucléaires, des allégations rejetées par Beijing. La Chine a accusé mardi Washington d'hypocrisie, évoquant ses motifs ultérieurs, et elle n'a pas manqué d'évoquer le programme d'espionnage de la National Security Agency, dont l'ampleur a été dévoilée par l'ancien contractuel de l'agence, Edward Snowden. Mais Cedric Layton, un ancien agent du renseignement pour l'aviation américaine, rappelle que la loi interdit aux entités du gouvernement américain de se livrer à l'espionnage commercial, ce qui n'est pas le cas en Chine. En juillet prochain, il est prévu à Beijing le prochain cycle du dialogue stratégique et économique sino-américain. Jen Psaki, porte-parole du Département d'État. Nous avons bon espoir que nous pouvons maintenir un dialogue avec la Chine sur la sécurité cybernétique et toute une série d'autres questions.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, place au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors on commence en football, le match Burkina-Sénégal est en cours à Ouaga.
Oui, les étalons du Burkina Faso affrontent les lions de la Teranga ce soir même au stade du 4 août. Le match a commencé depuis 18h, temps universel, et c'est dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN Maroc 2015.
Les Lions du Cameroun ont, eux, commencé leur préparation pour le Mondial.
Oui, la préparation de la phase finale de la Coupe du Monde Brésil 2014 a commencé ce mercredi pour les Lions Indomptables en Autriche. Et donc, les joueurs convoqués par le sélectionneur Volker Finke, se sont regroupés dans leur base de Kufstein, c'est en allemand, hein, donc... Il va falloir m'excuser. C'est donc en Autriche, bien sûr. Sur les 28 présélectionnés, tous ont répondu présents, à l'exception du défenseur Benoît Assou Ekoto, qui a encore des obligations professionnelles avec son club en Angleterre. C'est ce qu'explique Raphaël Nkoua, l'attaché de presse de la sélection camerounaise citée par Foot Africa 365.
Quelqu'un qu'on ne verra pas aux côtés des éperviers du Togo, à ma vie.
Oui, il s'agit bien de Jordan Amavi qui joue à Nice et qui dit qu'il n'est pas togolais. Contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient entendre, le joueur de couloir niçois affirme qu'il n'est pas d'origine togolaise. L'international espoir français l'a dit à France Football.
Enfin, parlons des finales régionales dans la NBA, la Ligue de basket professionnelle des États-Unis.
Voilà, sous la Ligue de l'Est, donc les champions en titre de la NBA, les Heat de Miami ont battu hier soir les Pacers d'Indiana 87-83 au second match de leur série de 7 rencontres. Les deux équipes sont maintenant à égalité, Chérubin. Une victoire partout.
Et question de remettre les pendules à l'heure. Merci beaucoup, Bagassi Koura.
Merci.
Wow. Voilà, donc on passe à la page musicale et Roger Muntou n'est pas avec nous, mais c'est pas grave. Yemi Obajimi, de l'équipe de production, nous propose d'écouter Tiwa Savage featuring Don Jay-Z dans Eminado. Eminado, Eminado.
What do you want from the bank? I just come from the bank, and I got money to throw it, So everybody, oh yeah, oh it, oh it. Rocking the body, rocking the body, rocking the body for me. Keep rocking the body, rocking the body for me.
Here I go, oh here I go. It's time to show me your love.
Voilà, Eminado, Tiwa Savage, et on fait la transition Morgan.
Oui, avec Happy de Pharrell Williams, puisque la musique, ça fait toujours du bien, donc pourquoi pas prolonger ce petit moment de plaisir.
D'autant que c'est dans l'actualité aujourd'hui.
C'est dans l'actualité aujourd'hui, puisque bon, tout le monde connaît ces vidéos qui font le tour du monde, chaque ville, même des fois les entreprises ont fait leur petite vidéo de I'm Happy. Mais apparemment, la version iranienne n'a pas été très bien perçue par les autorités.
Ça pose problème tout simplement parce que les dames ou demoiselles, je ne sais pas, qui dansent dans cette vidéo n'étaient pas voilées. Donc ça porte atteinte, selon les dirigeants, aux mœurs de la République islamique. Alors, ils ont été mis en prison, mais libérés par la suite, j'ai appris.
Oui, apparemment.
Et sauf le réalisateur.
Le réalisateur, effectivement. Bon.
Alors, let's all be happy with Pharrell Williams.
Give me all you got, don't hold it back.
ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Michel Joseph a dirigé la mise en onde en compagnie de Wayne Shorter qui était à la console technique. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de la Voix de l'Amérique. C'était avec vous, Chérubin, Gabi Dorsil
et Morgane Guiriec. À tout à l'heure.